Avengers, en référence à ces super-héros de fiction que l'on peut voir dans des films hollywoodiens à gros budget et qui ont eu un grand succès. Il se trouve que Teddy Riner, notre héros national de judo, en parlant des athlètes paralympiques, au début des JO paralympiques, a aussi parlé de ces athlètes handicapés comme étant des Avengers en raison du courage qu'ils avaient. Alors ça a fait une polémique derrière et certains ont dit non, pas du tout, on est juste des athlètes comme les autres. L'idée est que cette référence aux super-héros fait partie de notre culture, fait partie de notre société et c'est quelque chose auquel on peut tous s'identifier, en tout cas avoir une référence commune. Alors, le thème du héros, hein, il est aussi vieux que le monde. Si vous prenez d'ailleurs dans le livre de la Genèse, déjà 6e chapitre de la Bible, il est question des vaillants héros de l'Antiquité. Vous prenez Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, et vous avez l'histoire de Ulysse qui rencontre plein de héros. Et ces personnages comme Hercule, ces personnages que l'on trouve dans l'Antiquité, sont déjà des héros à l'époque. Mais vous allez me dire... on peut trouver des héros aujourd'hui, que ce soit des sportifs, que ce soit des musiciens, que ce soit des youtubeurs, que ce soit des héros de fiction, pas de patrouille pour les plus jeunes. J'ai réalisé que pour les collégiens, j'ai pas d'exemple. J'ai un trou culturel là, il faudrait que vous m'aidiez les jeunes après. Mais peu importe l'âge que nous ayons, peu importe les références que nous avons, nos héros peuvent être aussi parfois, tout simplement, des personnes que nous avons croisées dans notre vie et qui nous ont influencées. Que ce soit des personnes de notre famille, moi je pense très clairement à mes oncles, à mon grand-père, qui ont des personnes qui ont eu un impact sur ma vie et auxquelles je m'identifie volontiers. Des personnes qui, parfois, sur le plan spirituel, ont joué un rôle énorme. Et je pense notamment à un pasteur qui m'a énormément influencé lorsque j'étais étudiant, il y a 5 ans en arrière, et qui était quelqu'un qui a marqué ma vie. Alors bien sûr, cette question du héros, qui est aussi vieille de l'humanité, elle est présente dans la Bible. Et notamment, dans une sorte de cantique, une sorte de psaume, une sorte de poésie, que David a prononcé au sujet de Saül et de ses fils lorsqu'ils sont morts. C'est, si vous voulez, c'est une sorte d'éloge funèbre. Je vous propose de lire ensemble dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 17 à 27. Donc 11 versets. 2 Samuel, chapitre 1, verset 17 à 27. Voici la complainte que David composa sur Saül et sur son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux Judéens. C'est la complainte de l'arc qui figure dans le livre du Juste. Et ça commence comme ça. L'élite d'Israël a été blessée sur tes collines. Comment des héros ont-ils pu tomber? Donc Saül et ses fils sont morts lors d'une bataille. Ne l'annoncez pas dans Gat, n'en proclamez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon, sinon les filles des Philistins se réjouiraient, les filles des incirconcis triompheraient. Mont Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ permettant de faire des offrandes. En effet, c'est là qu'a été jeté le bouclier des héros, le bouclier de Saül. Plus jamais on ne le graissera avec de l'huile. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous habillait d'un cramoisi magnifique. Il mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il pu être blessé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était merveilleux et supérieur à l'amour des femmes. Comment des héros ont-ils pu tomber? Comment leurs armes ont-elles pu être détruites? Et on retrouve cette question à trois reprises dans cette complainte. Comment des héros sont-ils tombés? Nous avons tous des modèles, nous avons tous des personnes auxquelles nous avons, qui nous inspirent et auxquelles on peut s'identifier ou sur les traces desquelles on veut marcher. Mais parfois, ces personnes peuvent aussi nous décevoir. Comment nos héros peuvent-ils tomber? Comment réagir par rapport à cela? Mais surtout, plus que cela, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un héros qui soit supérieur à tous les héros, d'un héros fiable et d'un héros dans lequel je puisse avoir pleinement confiance? Alors, je vous propose de répondre à cela aujourd'hui en 5 questions. Première question, qu'est-ce qu'un héros? Deuxième question, comment devenir un héros? Troisième question, comment un héros peut-il tomber? Quatrième question, pourquoi un héros est un mythe? Et cinquième question, j'aimerais vous montrer que Christ est plus qu'un héros. Première question, qu'est-ce qu'un héros? Très clairement, dans cette histoire de Saül et de David, nous avons des modèles de ce que l'on pourrait appeler des héros profanes et des héros spirituels. Saül, il représente plutôt le héros profane, qui est choisi comme roi d'Israël avant tout parce qu'il est grand de taille, musclé, il est à la salle très régulièrement et on le repère par rapport aux autres personnes autour de lui. David, lui, il nous est présenté au départ simplement comme un berger derrière les brebis. Le gars, il joue de la harpe et il a un bâton à la main quoi, pour s'occuper des... Puis au fur et à mesure qu'on apprend à le connaître, on réalise qu'il a aussi des qualités physiques exceptionnelles, mais la présentation est volontairement, commence volontairement comme quelqu'un qui est anodin. Or, lorsqu'il remporte la victoire comme Goliath, c'est ainsi qu'il est présenté. C'est le berger qui tout d'un coup se retrouve face à ce géant philistin surarmé et bodybuildé et qu'il est capable de vaincre avec une pierre dans sa fronde. Le contraste est tellement énorme que David est bien présenté comme un modèle de héros spirituel, c'est-à-dire que son muscle principal est un muscle du cœur. Son muscle principal, c'est sa foi en Dieu, c'est sa confiance en l'Éternel, et il s'avance en disant qu'il est là pour se battre pour l'Éternel. D'ailleurs, Samuel le dit bien au chapitre 16, verset 7 de 1 Samuel. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté, en parlant du grand frère de David, qui était particulièrement physiquement développé. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Qu'est-ce qu'un héros? Selon notre vision des choses, un héros profane n'est pas la même chose qu'un héros spirituel. Alors, deuxième question, comment devenir un héros profane? Alors, on peut proposer une recette que vous trouverez d'ailleurs plus développée si vous cherchez ça sur Google, sur les manières de devenir un héros. Toute la psychologie du développement personnel auquel nous sommes au bénéfice aujourd'hui nous propose des étapes pour identifier nos forces, fixer des objectifs, utiliser les ressources que nous avons autour de nous ou le réseau de personnes que nous connaissons pour parvenir à nos fins. Saül, dans 1 Samuel, nous est présenté comme, au départ, quelqu'un qui était plutôt réservé, timide. Lorsqu'il est choisi comme roi, on ne le trouve pas parce qu'il se cache derrière des bagages pour pas qu'on le voie. Il a peur d'être mis en avant. Et puis on voit que plus le temps passe, plus il prend en assurance et il devient un leader en Israël. Il remporte des victoires contre les ennemis d'Israël, les Philistins. Et puis, il parvient à diriger ce peuple d'Israël. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas cela l'idée que l'on se fait aujourd'hui de ce que serait un héros? Un héros, ce serait quelqu'un qui se battrait contre l'injustice, quelqu'un qui défendrait les opprimés, quelqu'un qui tenterait de réparer le monde à travers ses actions, à travers son engagement, et à travers ses choix de vie. Vous avez entendu parler, enfin c'est sûr d'ailleurs que vous n'avez pas pu échapper à ce buzz incroyable autour de ce jeune youtubeur qui s'appelle Inoxtag, 22 ans, et qui a réussi à gravir l'Everest sans être spécialement sportif. Il s'est fait connaître au départ en jouant à des jeux vidéo. Petit message pour les parents, si vos enfants jouent aux jeux vidéo, tout n'est pas perdu derrière. Et l'idée, c'est qu'il a réussi à gravir l'Everest à 22 ans, en se préparant en seulement un an, ce qui est complètement assez fou. Et il en a fait un film qui a fait un buzz incroyable. Il y a plus de 24 millions de vues sur YouTube en une semaine. Et c'est assez incroyable. Son message est simple. Il le répète au fil de son film. C'est que si tu veux réaliser tes rêves, il suffit chaque jour d'y travailler et tu vas t'améliorer de jour en jour. Qui est un message qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à faire des efforts et qui nous pousse à mettre en œuvre ce qu'il faut pour réaliser ses rêves. Mais ça, c'est typiquement la manière de devenir un héros profane, de réaliser nos rêves sur cette terre dans un objectif surtout matériel. Cependant, est-ce qu'on pourrait transposer ça en termes de héros spirituel ? Si mon objectif dans ma vie, ce n'est pas seulement de réussir sur le plan matériel ou dans mes objectifs de découverte de la planète ou de réalisation de moi-même, et si j'ai un objectif qui est plutôt un objectif spirituel, à savoir d'avoir une vie réussie avec Christ, en Christ, en tant que chrétien, c'est-à-dire une vie qui fait une différence et qui a un sens, parce que j'entends chrétien, c'est-à-dire d'être transformé par Christ, pas juste d'avoir le nom de chrétien, eh bien, est-ce que cette méthode n'est pas aussi applicable ? Après tout, que nous dit le psaume 1 ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pas une recette, ça ? C'est une recette. Simplement, les ingrédients ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on met dans cette recette ? L'idée de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ce qu'on trouve aussi ailleurs, dans le psaume 37, verset 5, que j'aime bien avoir comme référence quand je me sens un peu malade, c'est 37,5, c'est la température où on n'est pas malade. Et ce verset est encourageant. Il dit quoi ? Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Il se trouve que je me suis occupé avec les anciens et certains dans l'église de la gestion des travaux depuis juillet 2023. Je savais que la gestion des travaux était quelque chose qui n'était pas facile et qu'il y aurait des contretemps, des complications, des moments difficiles à gérer. J'avais jamais anticipé ni imaginé que notre voisin allait nous assigner en justice pour faire annuler le permis de construire. J'aurais pas imaginé que toutes les vendredis soirs à 22h30, il allait m'envoyer un mail de 5 pages pour me raconter par A plus B ses malheurs et comment je devais réagir et comment je devais faire pour que la situation aille mieux. J'aurais pas imaginé que la structure du bâtiment était fragilisée et nécessitait de rajouter des poutres dans tous les sens et que du coup ça coûte plus cher que prévu, etc., etc. Qu'est-ce qui m'a permis de tenir le coup dans cette période et à chaque fois que j'étais face à un mur ou à un événement qui n'était pas prévu? Psaume 37,5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et ça, c'est extraordinaire parce que l'objectif que la Bible nous propose, c'est un objectif de réussir notre vie, mais selon des critères qui sont différents de notre société actuelle. Notre objectif, ce n'est pas de nous réaliser nous-mêmes, mais d'avoir la joie et le privilège de pouvoir participer à ce que le Seigneur veut réaliser sur cette terre, dans cette ville, dans cette église, en transformant notre cœur. Et quelque part, je ne suis pas le même maintenant, aujourd'hui, ce 22 septembre 2024, que je l'étais en juillet 2023, avant que les travaux commencent. Et merci Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'un héros? On y a répondu. Comment devenir un héros? J'y ai répondu en partie. Mais alors, comment expliquer que des héros puissent tomber? Que l'on parle de héros profanes, que l'on parle de héros spirituels, même combat, tous peuvent chuter. Je vous donne l'exemple de Saül, de David. Les deux sont des rois d'Israël, qui a eu un départ intéressant, mais qui à la fin ne finissent pas dans la même situation. Saül est vraiment celui qui est choisi par Dieu au départ comme roi, approuvé par le peuple, mais qui a complètement dérapé, qui a désobéi à Dieu, jusqu'à se laisser ronger par une jalousie maladive et à vouloir à tout prix éliminer son concurrent potentiel, David, rongé par la peur de ne pas pouvoir fonder une dynastie, jusqu'à aller à transgresser une des lois d'Israël qui était noir sur blanc, ne consulter une voyante pour faire revenir quelqu'un d'entre les morts. David, lui, c'est tout l'inverse. Il commence petit et on voit que sa foi est surdimensionnée et qu'il va être un roi extraordinaire pour Israël. Et puis voilà que, paf, dans un moment de baisse de vigilance, il commet adultère et meurtre dans la foulée. Et ce roi qui était pour nous un exemple, eh bien, chute du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est ce que la parole nous rappelle à plusieurs endroits, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Pierre, lorsqu'il a dit à Jésus, « Non, mais tu es en train de dire que tu vas mourir sur la croix, mais moi, il n'y a pas question, personne ne te touchera, Seigneur. Je suis là et je resterai avec toi jusqu'au bout. Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Et Jésus lui a dit, non, Pierre, avant que le coq chante deux fois, toi, tu me renieras trois fois. Et voilà que Pierre affirme, même s'il faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Tous les disciples avec lui disent la même chose, et la fin, on la connaît. Pierre a renié Jésus à trois reprises. L'abbé Pierre, franchement, extraordinaire. Les Emmaüs qu'il a fondés, les Restos du Cœur, c'est Coluche, mais voilà des personnes qui ont accompli des œuvres, on va dire, de charité humaine, qui sont extraordinaires. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a appris ces derniers mois sur l'abbé Pierre? Que sa vie morale était discutable et qu'il a profité de la faiblesse de certaines femmes qui l'entouraient. Et voilà comment des héros qui, pour nous, sont des modèles, du jour au lendemain, peuvent chuter avec des conséquences qui peuvent être graves, à savoir que cette personne que l'on considère comme une référence, qu'est-ce qui se passe lorsque tout d'un coup ce modèle se fissure et que je dois continuer à vivre, continuer à me battre pour des idées auxquelles je crois et que cette personne portait et qu'elle n'est plus là. Je vous ai dit au début que j'étais fortement influencé par un pasteur incroyable lorsque j'étais étudiant. C'était un pasteur qui était américain, j'ai pu aller d'ailleurs chez lui, j'ai pu habiter dans des familles de l'église dont il était le pasteur. Il est venu aussi plusieurs fois en France, et une des raisons pour lesquelles j'aime la parole aujourd'hui, c'est grâce au message de ce pasteur, qui avait une capacité de raconter la parole extraordinaire et de nous emmener avec lui. À la fin, on avait presque l'impression d'être un peu au ciel lorsqu'on sortait des messages avec lui. Un des événements qui m'a le plus marqué, c'était il a fait venir des personnes de toutes ces églises aux États-Unis, principalement en Californie, à Los Angeles. Ils ont loué un immense gymnase d'une université, et on était 1000 dans la salle, à écouter 2 heures de messages. Il y avait 7 messages en 2 jours. Et on était là à se nourrir de la parole, et c'est là où j'ai découvert que les chrétiens américains sont assez cool. Ils avaient tous pris des M&M's pour tenir le coup pendant les messages. Mais c'était des moments fabuleux. Ce pasteur s'est crashé. Et en 2022, en fait, il a été démis de ses fonctions par le conseil d'anciens et ça a été une catastrophe. Et tout le réseau d'églises qu'il avait mis en place, qu'il avait implanté, a explosé. Certains sont restés fidèles à la parole, mais plusieurs, notamment des jeunes, ont tout remis en question et se sont éloignés de Christ. C'est triste. Et ce qui est triste, ce qui est encore plus triste, c'est que cette histoire que je vous raconte, il existe toujours aujourd'hui, en France, des pasteurs qui abusent de leur autorité et qui n'acceptent pas d'être remis en question et de rendre des comptes pour ce qu'ils font et qui entraînent des personnes loin du Seigneur, alors que pourtant, c'est des personnes avec une influence extraordinaire. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Je ne veux pas vous semer le doute concernant les pasteurs. J'aime les pasteurs, on est d'accord avec ça, et je crois dans la nécessité d'avoir des personnes qui nous envoient, qui nous tirent de l'arbre. Mais le point sur lequel je veux insister, et c'est ma quatrième question, pourquoi le héros est un mythe ? Qu'est-ce que le mythe du héros ? Alors, j'aimerais y répondre par une question. Est-ce qu'il y a un héros dans la salle ? Peut-il lever la main ? Ok, vous avez compris que c'est une question piège. Mais en réalité, un héros, on est d'accord, ça ne s'annonce pas. Personne ne rentre ici en disant « Hey, je suis un héros !» Et en réalité, ça se traduit par des actions et c'est les personnes autour qui reconnaissent que cette personne a des qualités héroïques. Que lorsqu'on pense à Hébreux 11, ce fameux chapitre du Nouveau Testament, qui fait la liste des personnes qui ont eu des actions de foi extraordinaires. On surnomme d'ailleurs ce chapitre les héros de la foi. Et c'est un titre qui fait polémique, mais qui est culturellement, vous avez déjà entendu, parce que c'est des personnes qui ont eu confiance en Dieu et Dieu a pu faire de grandes choses avec eux. Mais ce n'est pas eux qui sont appelés héros. C'est dans Hébreux 11 qu'on retrouve leurs noms et qui sont listés les uns après les autres pour leurs actions extraordinaires. Alors, vous avez peut-être vu la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, avec la mise en valeur d'un acteur de cinéma extraordinaire, Tom Cruise, sur sa moto, et qui a traversé l'écran pour arriver directement à Los Angeles par une faille spatio-temporelle. Vous avez certainement vu aussi comment Jean Dujardin a exprimé une certaine frustration que Tom Cruise a été tellement célébré, alors que lui, pour la Coupe du Monde de rugby, avait été plutôt moqué avec sa baguette à la main et son béret sur la tête. Mais ça, c'est une autre histoire. N'empêche que les deux sont des bonnes références. La réalité, c'est que le héros est un mythe, et pourtant, il n'y a pas d'école de héros. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme pour devenir un héros. Je travaille à l'éducation nationale, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de diplôme de héros. Être un héros, en fait, ça relève d'un idéal. C'est un objectif ultime. On sait bien que les idéaux sont inatteignables, mais s'ils peuvent nous tirer de l'avant à certains moments, ils peuvent être aussi source de frustration. Parce que franchement, depuis le mois d'août, depuis début août, je me suis mis à la natation et je cherche à me rapprocher des temps de Léon Marchand et je suis frustré. Surtout quand je vois qu'il y a d'autres personnes qui me doublent dans le bassin, là, c'est... Lorsque la France a été championne du monde de foot en 1998 et en 2018, vous savez ce qui s'est passé à la rentrée ? Le nombre de licenciés en foot a augmenté, comme actuellement le nombre de licenciés en natation augmente. Mais combien parmi tous ces jeunes qui se disent oh, « je veux devenir footballeur professionnel, je veux devenir nageur et gagner une médaille », combien il y en a qui gagnent au final, combien il y en a qui arrivent à un niveau pro ? Il y a une forme de mythe total, de miroir aux alouettes, qui est que, en fait, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et en fait, devenir un héros, c'est inatteignable. Des Léon Marchand, il n'y en a qu'un, parmi des millions. Et si votre espoir, c'est de devenir un héros, de devenir quelqu'un d'aimé, d'apprécié, de valoriser, de glorifier, de postériser sur les chambre des ados, eh bien c'est un espoir qui risque de vous détruire le jour où il va se briser. C'est un espoir qui peut être source d'échec, de découragement, de frustration, voire de culpabilisation, parce que je n'y arrive pas, ou d'orgueil, à l'inverse, parce que j'y arrive bien. Mais alors, je vous ai dit au départ qu'on a tous des héros et qu'on a besoin de modèles. Comment se sortir de ce problème, à savoir que nos héros, dont nous avons besoin, vont en même temps nous décevoir et risquent de nous frustrer, voire de nous faire des dégâts? Eh bien, la réponse, elle est là. Christ est le héros suprême. Dans le Nouveau Testament, le mot « héros » n'apparaît pas. Pourtant, toutes les pages du Nouveau Testament nous décrivent le modèle du héros suprême, le super-héros qui coche toutes les cases, Christ. Comme Superman, Jésus est surpuissant. Comme Mickey, Jésus est parfait. Comme Mère Teresa, Jésus est bienveillant. Comme Jean Gabin, Jésus est stable dans ses émotions à l'écran. Comme Winston Churchill, Jésus est persévérant face à l'adversité. Comme Martin Luther King, Jésus est engagé contre l'injustice. Mais affirmer que Christ soit un héros parfait, c'est en réalité sous-estimer qui est Christ. C'est une description qui est complètement limitante de qui est Christ. Parce que Christ est beaucoup plus qu'un héros. Christ est aussi un anti-héros. Pourquoi ? Parce que, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer dans ce qu'on imagine un héros, Christ a accepté de devenir un zéro. Il a quitté la gloire céleste pour venir sur terre. Il a pris une nature humaine limitée pour être semblable à nous. Il a laissé sa couronne de gloire pour une couronne d'épines. Il a laissé son trône de gloire pour une croix humiliante. Et il a surtout accepté de perdre sa relation avec son Père pour connaître l'abandon, la solitude et le vide intégral qui a précédé sa mort et qu'il a connu à travers la mort. Bref, il a renoncé à sa vie, à la croix, pour pouvoir mieux triompher lors de la résurrection. Il a reculé pour mieux sauter. Autrement dit, Christ, oui, est un super héros, mais il est beaucoup plus que ça, parce qu'il est un anti-héros, et il a triomphé par sa faiblesse. La puissance de Christ est exprimée à travers sa faiblesse. Et j'aime bien cette citation de Kenton Sparks à ce sujet, qui dit « Si le Christ avait été une sorte de super-héros, avec une nature différente de la nôtre, quel aurait été son mérite à réussir là où tous les autres ont échoué ? Il était bien de la même nature que nous, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il a résisté au mal en comptant sur la force du Saint-Esprit, et c'est à lui que soit toute la gloire. » Christ n'a pas triomphé par sa propre force, mais par la force du Saint-Esprit, et par sa faiblesse, il a vaincu toutes les dominations qui nous retenaient captifs. Il a fait cela pour nous. Pourquoi ? Pour nous montrer un idéal, le héros parfait, à savoir que l'objectif du chrétien, c'est de devenir comme Christ. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne nous a pas laissé sans les moyens de devenir comme Christ. À savoir que lui-même s'est offert en sacrifice pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être sauvés et pour que nous puissions être transformés à son image. Et c'est pour cela que choisir Christ comme héros, choisir Christ comme modèle, c'est pas la même chose que de mettre un poster d'un joueur de foot dans sa chambre. Choisir Christ comme modèle, c'est trouver un sens à ma vie, c'est trouver un idéal qui va avoir un impact sur mes choix et sur aussi mes minutes qui passent dans ma journée. Parce que lorsque je serai confronté à des situations difficiles, alors je pourrai recommander mon sort à l'Éternel et le laisser agir. Ça ne donne pas envie d'être en relation avec le héros des héros, pouvoir parler avec Dieu lui-même, pouvoir l'écouter, Savoir que Dieu a des choses à me dire et qu'il m'écoute quand je m'adresse à lui. Oui, Christ est à la fois héros et anti-héros. Et c'est sa faiblesse qui me rend fort. Alors en conclusion, je voulais terminer avec ce magnifique passage de 1 Corinthiens 1, 26-29, qui dit ceci. « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages. » Et si on se regarde les uns les autres, je ne vois aucun ministre ici nommé hier au gouvernement. Je ne vois aucun chef d'État, ni aucune star sportive ou musicienne. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'un héros ? Celui qui met sa fierté dans le Seigneur.
Merci Colin pour ce beau message. Je pense qu'il a tout dit. Allez, n'oublions pas les parapluies qui sont à l'entrée. Il ne pleut pas, mais ça pourrait servir dans la semaine parce qu'il ne va pas faire tout beau cette semaine. Allez, je vais vous souhaiter un très bon dimanche et n'oubliez pas qu'il y a un gap tout à l'heure.
De façon à pouvoir libérer un peu de place et mettre des tables.
Ça marche.